Avec Suno Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Sensible, déshydratée ou grasse, notre peau peut réagir aux agressions extérieures, soleil, vent, pollution, changer en fonction des périodes de la vie, puberté ou vieillissement, ou encore être sujette à diverses affections, pas forcément graves, mais qui peuvent pourtant avoir un impact important en termes de bien-être ou d'estime de soi. Notre peau, barrière protectrice que l'on oublie trop souvent de protéger de ces agressions, voire que l'on maltraite volontairement à des fins soi-disant esthétique. Hygiène inadaptée, dépigmentation chimique, exposition solaire excessive. Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes vos questions, toutes ces questions que vous vous posez sur ces affections cutanées qui peuvent sinon gâcher la vie, au moins créer de véritables complexes comme l'acné, le psoriasis ou les poils incarnés. Ces questions, on les attend bien sûr sur la page Facebook de notre émission et à notre numéro, le 33 84 22 75 75. Des questions nombreuses, variées, auxquelles on vous propose de répondre. Docteur Dominique Aigas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue à l'hôpital des Peupliers à Paris et vous enseignez à l'université Paris-Descartes. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Cameroun le docteur Christine Mandengue, dermatovénérologue, praticienne hospitalo-universitaire à l'université des montagnes de Bangangté, c'est dans l'ouest du Cameroun. Et puis en fin d'émission, ce sera la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Aigas, hein, l'une des affections de la peau, on le retrouve d'ailleurs dans les questions des auditrices et des auditeurs, l'une des affections qui pousse le plus souvent à consulter, c'est l'acné. Hein. Est-ce qu'il y a différentes formes d'acné ?
Oui, il y a différentes formes d'acné. Il y a l'acné la plus commune, qui est celle qui apparaît au moment de la puberté, qui est à la fois sous dépendance hormonale et certains types de peau un peu plus grasses ou un peu plus épaisses que les autres. Et donc ça, c'est presque un passage obligé, je dirais. Alors il y a des adolescents qui n'en ont pas ou très peu, et d'autres malheureusement qui ont des acnés macronodulaires, très inflammatoires, qui sont vraiment difficiles à supporter, difficiles à traiter. Puis il y a l'acné microkystique, une petite acné d'inflammation du follicule pilosébacé, qui est gênante pour la vie au quotidien, mais qui est pas du tout grave, quoi. Il faut pas faire de traitement trop intempestif pour pas l'aggraver. Et donc, souvent au moment de la puberté, la peau devient un peu plus grasse. Donc, il faut bien nettoyer sa peau avec des savons doux, ou mieux des syndettes, c'est-à-dire des bases lavantes, mais sans savon. Et puis, s'il y a quelques petits microkystes inflammatoires, traiter ponctuellement avec des lotions de type érifluide ou érythrogel qui sont à base d'érythromycine, qui est un antibiotique local en l'occurrence. Si c'est plus important, on peut prendre par voie générale des cyclines, qui est un bon traitement, encore qu'en Afrique, il faut se méfier parce que les cyclines, c'est photosensibilisant. Donc si on en prend et qu'on fait pas attention au soleil, on risque d'avoir des photosensibilisations importantes. Je pense qu'au départ, ce qu'il faut, c'est bien se laver la peau matin et soir, et puis mettre des petits antiseptiques locaux, pas trop agressifs, pour pas abîmer la peau. Hein. Parce que la peau, ça a un rôle à la fois d'échange avec l'extérieur et de protection. Donc c'est quand même une barrière qu'il faut pas trop agresser.
Docteur Dominique Aigas, justement, qu'est-ce qui va déterminer la sévérité de cette acné ? Est-ce que c'est le terrain ? Par exemple, un terrain familial, ou est-ce que c'est les produits qu'on va mettre qui ne vont faire qu'empirer les choses ?
Ce sont les deux. Hein. C'est vrai qu'il y a des familles où il y a des acnés macronodulaires très inflammatoires, importantes, et les parents l'ont déjà eu, les frères et sœurs peuvent l'avoir aussi. Et puis, là, il y a vraiment une question de terrain. Puis ensuite, effectivement, il peut y avoir des questions d'employer des produits qu'on met sur la peau qui sont pas très adaptés au type de peau que l'on a et qui vont plutôt aggraver qu'améliorer cette acné microkystique, quoi.
J'ai une question de base un petit peu naïve, mais j'y vais quand même. Pourquoi est-ce qu'on perd sa peau de bébé ?
Non, mais vous savez que la peau se modifie tout au long de la vie. Hein. Alors quand on est, quand on vient à la naissance, d'abord on a passé 9 mois dans le ventre de la maman, qui était un milieu stérile, bien avec la bonne humidité, le bon environnement, les nutriments apportés par la maman qui sont bien adaptés. Donc là, c'est vrai, quand on vient sur Terre, on a une peau formidable. Puis après, en vieillissant, on passe par les phases d'acné. En vieillissant plus encore, bon, la peau, on voit apparaître des taches, des pigmentations, des petites imperfections. Et puis, quand on vieillit, il peut y avoir des rides plus importantes. Alors, il y a des gens qui ont la chance d'avoir moins de rides que d'autres, hein, mais tout le monde en a. Et puis, en vieillissant encore un peu plus, la peau devient plus fine, plus fragile, cicatrise moins bien. Donc, la peau change continuellement avec les variations, avec l'environnement dans lequel on vit, avec les variations hormonales, aussi bien chez les garçons que chez les filles, et puis avec les modifications du tissu collagène, des fibres élastiques. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que la peau évolue tout le temps, et pas, malheureusement, pas toujours dans le sens favorable.
Et la peau qui peut aussi être, justement, avoir certains médicaments qui peuvent vraiment avoir une influence sur la santé de la peau, qui peuvent modifier certaines choses, voire provoquer des poussées, hein, docteur Agas.
Ah ben oui, tout à fait. On appelle ça les acnés médicamenteuses. C'est-à-dire que, par exemple, si on est pour une raison, une maladie auto-immune, par exemple, ou une polyarthrite, obligé de prendre de la cortisone à forte dose, donc la peau se fragilise. Et puis, on voit apparaître, la peau devient plus fine, on voit apparaître des vergetures, on voit apparaître des points de folliculite. La cortisone, qui est un très bon traitement pour plein de maladies, si on en prend trop pendant trop longtemps, c'est vrai que ça fragilise beaucoup la peau. Et si on fait des traitements un peu intempestifs avec trop de vitamine E, par exemple, ou trop de vitamine A, ça peut aussi, à la longue, entraîner des complications.
Sur les cicatrices d'acné, ces cratères que l'on voit, c'est dû à quoi, docteur Dominique? C'est parce que les gens, on va dire, touchent trop leur peau, mettent des produits trop agressifs, ou c'est une suite naturelle de la cicatrisation du bouton ?
Alors, dans les acnés microkystiques, si on n'y touche pas et qu'on ne fait pas de manipulation intempestive, il ne va pas y avoir de cicatrice. En revanche, ce sont des acnés macronodulaires, très importantes, inflammatoires, et où le processus acnéique atteint la partie profonde de la peau. Quand on passe au-dessus de la partie du derme superficiel, plus on descend dans la peau et plus les cicatrices sont importantes et perdurent, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut pas manipuler sa peau quand on a des kystes comme ça, mais même parfois dans les acnés ulcéro-nécrotiques, il y a vraiment des cicatrices importantes qui s'installent, et même si le patient n'y touche pas, hein, c'est l'évolution spontanée de ces acnés importantes, quoi.
Alors, quand on parle de prévention en dermatologie, on parle de quoi ? On parle d'abord d'hygiène ou on parle de conduite à éviter, docteur Dominique Aigas ?
Non, c'est vrai que l'hygiène de la peau, l'environnement dans lequel on est, il faut bien nettoyer, quoi qu'il arrive, il faut bien nettoyer sa peau matin et soir avec des savons doux, comme je le disais au début de l'émission. Il faut pas agresser sa peau. C'est pas mal de mettre ensuite une crème, une base hydratante légère. Faut pas, par exemple, il y a des acnés qui sont induites par des matières trop grasses qui augmentent la rétention sébacée et qui peuvent induire des acnés. Donc, il faut bien nettoyer la peau sans l'agresser et puis ensuite la réhydrater, soit avec des émulsions aux dents huile qui sont des choses assez légères, soit avec des crèmes un petit peu plus structuré, mais il faut surtout pas les prendre trop grasses quand même.
On va tout de suite prendre les auditeurs en ligne. J'ai juste une dernière petite question. Quand la peau gratte, ces démangeaisons cutanées, docteur Aigas, c'est dû à quoi ?
Alors, il y a plein de causes. La sécheresse de la peau, ça entraîne des démangeaisons. Chez les personnes âgées, par exemple, si la peau est trop sèche et pas suffisamment hydratée, les gens se grattent. Mais il y a aussi les urticaires, qui font que la peau peut se gratter, les eczémas qui grattent énormément, les lichens qui sont un autre type de maladie dermatologique. Toutes ces maladies de peau entraînent des démangeaisons, hein, par stimulation des terminaisons nerveuses sensitives qui sont à fleur de peau, c'est le cas de le dire. Et donc la peau gratte si elle est un petit peu agressée, aussi bien par voie externe d'ailleurs que par voie interne, puisque des urticaires par voie interne, et il y a des urticaires par voie externe aussi, et ça gratte beaucoup, quoi.
On va prendre tout de suite nos auditeurs en ligne, à eux la parole.
Priorité santé sur RFI.
Avec un premier appel du Bénin, de Cotonou, c'est Victor qui est avec nous en ligne. Bonjour Victor.
Bonjour, Priorité Santé.
On est à votre écoute. On est à votre écoute. Allez-y, posez votre question. Oui. Allez-y.
J'ai 30 ans. Mm-hmm. Depuis mon bas âge, je n'ai jamais eu un problème d'acné. Mais à l'âge de 25 ans, j'ai commencé par avoir des boutons et parfois des abcès au visage. Mm-hmm. Quand j'utilise des antibiotiques, ils disparaissent, laissant des taches noires. Ne pouvant pas être sous antibiotiques tout le temps, je voudrais savoir quelle autre méthode adopter pour éradiquer le mal. Et quelle est la cause du mal et pourquoi les acteurs choisissent surtout mon visage.
Victor, vous avez consulté pour savoir quelle était la nature de ces boutons ou vous appelez comme ça parce que justement vous n'avez pas de réponse?
Non, je n'ai pas consulté.
Et les antibiotiques, vous les avez pris donc par vous-même, sans voir un médecin?
Oui.
Et c'est des antibiotiques en crème, pas par voie orale?
C'est par voie orale, c'est des antibiotiques qu'on prend avec de l'eau.
Avec de l'eau, en cachet, vous avez pris des antibiotiques par voie orale. Alors je donne bien sûr maintenant la parole au spécialiste, le docteur Dominique Egas. Peut-être que vous avez d'autres questions à poser à Victor.
Alors, si je puis me permettre, je vais dire à Victor qu'il faut éviter le plus possible l'automédication. Parce que bon, ça peut être adapté si on a pris les conseils d'amis, etc. Mais très souvent, c'est totalement inadapté.
Vaut mieux garder des antibiotiques pour des choses...
En particulier, les antibiotiques, voilà. Faut les garder pour des traitements vraiment nécessaires. Et donc, pourquoi les boutons sont sur le haut de votre visage? Très souvent, les gens mettent des corps gras sur les cheveux pour les laquer un petit peu ou les graisser un peu. Et puis, ça déborde sur le front et ça peut entraîner des réactions microkystiques de type acnéiforme sur le front.
Est-ce que vous mettez, Victor, justement, comme le docteur Egas le dit, peut-être ces crèmes ou ces lotions ou du beurre de karité ou quelque voilà. chose d'autre sur vos cheveux pour les fixer ou les rendre plus souples?
Pardon, hein. Je n'ai pas bien reçu.
Est-ce que vous mettez de la crème, quelque chose d'hydratant ou un corps gras dans vos cheveux?
Non, pas dans les cheveux, mais j'utilise des crèmes sur le visage.
Sur le visage, quoi comme type de crème?
Les crèmes de peau, actuellement, j'utilise une crème d'une marque ivoirienne.
Est-ce que vous utilisez une crème d'une marque ivoirienne qui a comme vertu d'éclaircir, par exemple, le teint? C'est hydratant? Juste hydratant?
D'unifier le teint.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le front, c'est quand même une zone prioritaire de l'acné, hein, parce que il y a beaucoup de glandes sébacées sur le front, et c'est vrai que les acnés microkystiques, c'est une des zones où il y a beaucoup de lésions de type acnéique sur le front. Donc, il faut, pour que Victor essaie de se débarrasser de ce problème, faut bien qu'il se lave la peau matin et soir avec des savons doux. Faut que vous évitiez de mettre des crèmes un petit peu trop grasses. Hein. Faut prendre des émulsions légères pour hydrater, si vous voulez hydrater la peau. Faut pas que vous mettiez des crèmes à base d'antibiotiques ou de cortisone. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui utilisent des crèmes à base de cortisone pour éclaircir leur peau. Alors, c'est vrai que ça éclaircit bien la peau, mais malheureusement, ces crèmes à base de cortisone, ça induit de l'acné. Donc, d'une part, ils ont un résultat qu'ils cherchent, c'est-à-dire avoir la peau un peu plus claire.
Dans un premier temps seulement.
Dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, ça induit une folliculite de type acnéique. Et donc, ça, c'est pas bien. Alors, Victor, ce qu'il faut, il faut pas que vous preniez des antibiotiques ponctuellement sans savoir le type d'antibiotique, s'il est adapté. Et je vous conseille quand même, si vous en avez la possibilité, d'aller consulter pour savoir si, premièrement, ce sont vraiment des lésions d'acné. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces lésions d'acné un peu inflammatoires sur les peaux pigmentées, ça a tendance... Alors, la lésion d'acné elle-même disparaît, mais les pigmentations post-inflammatoires durent après pendant des mois, voire des années. Hein. Surtout qu'il y a le soleil qui les entretient, qui les aggrave. Et donc, sur les peaux pigmentées, toutes les lésions inflammatoires, dans un deuxième temps, engendrent des pigmentations qui durent assez longtemps. Et donc, faut bien se protéger du soleil. Et puis, moi, ce que je vous conseille, parce que la peau du front, elle est assez épaisse, assez grasse, nettoyez bien matin et soir, voire une troisième fois dans la journée, mais délicatement et doucement, avec de l'eau et un syndète ou un savon très doux, quoi.
Et arrêtez les antibiotiques, puisque vous l'avez constaté vous-même, ça n'a pas marché.
Non, les antibiotiques pris tout seul comme ça, sans savoir la nature des antibiotiques, c'est pas une très bonne idée.
Voilà. Très bonne journée à vous à Cotonou, Victor. On va partir pour Port-au-Prince, pour Haïti. Il est très tôt là-bas. Merci de vous réveiller aussitôt pour Priorité Santé. Juvanica, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, on est à votre écoute. Allez-y.
Bonjour.
Allez-y.
Ok. Je m'appelle Juvanica, oui. J'ai 22 ans. Mmh. Je commence à avoir des boutons depuis... Ben, ça fait environ 2 ans, mais au début, je n'avais pas. J'ai quelques boutons, beaucoup de boutons quand j'ai mes règles. J'ai beaucoup de boutons aussi et quand il y a beaucoup de poussière. Donc, quand il y a beaucoup de poussière, les boutons augmentent. J'ai beaucoup sur le front et la partie droite de mon visage. Beaucoup.
Alors, Juvanica, docteur Egas, ce lien entre le cycle menstruel et la poussée de boutons, c'est quelque chose de fréquent?
Ça, c'est très banal et très connu. Hein. C'est vrai qu'au moment du cycle, au moment des règles, il y a souvent une aggravation des lésions acnéiques. Donc ça, c'est malheureusement, c'est assez banal.
On va dire même que c'est quasiment naturel.
C'est naturel, il faut dire.
Pour la poussière, qu'est-ce qu'elle peut faire, Juvanica, pour se protéger, puisqu'elle a ses réactions?
Alors, c'est vrai que les irritations provoquées par la poussière, ça existe, hein, y a pas de problème. Donc, il faut bien qu'elle se lave la peau matin et soir, toujours, hein, avec des choses douces. Et s'il y a vraiment beaucoup de poussière, elle peut se relaver la peau dans la journée. Mais alors là, on déconseille de prendre des savons. Il faut rincer à grande eau. Pas trop chaude, mais à l'eau douce, sans avoir des savons.
Pour ne pas s'agresser non plus.
Parce que je vois que sinon, ça l'agresse la peau un petit peu, et puis elle dit qu'elle se gratte.
Ouais.
Et donc ça, c'est peut-être qu'elle se lave un petit peu trop. Donc matin et soir, de l'eau et du savon doux ou un syndète. Et puis dans la journée, si vraiment la peau est avec trop de poussière, vous pouvez vous laver la peau, mais uniquement avec de l'eau, et puis vous séchez sans frotter en tamponnant délicatement.
Donc prendre soin de cette peau qui a l'air assez réactive.
Alors pour les allergies à la poussière, parce que je vois qu'elle pose la question là, ça, les allergies à la poussière, ça existe, mais ça se traduit plus par des manifestations respiratoires que par des manifestations cutanées. Hein. Ça peut, si vraiment il y a énormément de poussière et qu'on la laisse trop longtemps sur le pot, ça finit par irriter. Mais les problèmes engendrés par la poussière sont plutôt ORL. Que dermatologique.
Voilà, Juvanica, pour ces réponses. On vous souhaite une excellente journée à Port-au-Prince. On va retourner en Afrique de l'Ouest, le Bénin, Godomé. C'est Frimousse qui est avec nous. Bonjour, Frimousse.
Bonjour, madame.
Enchantée de vous parler. On vous écoute. Allez-y.
Je m'appelle Frimousse. J'ai 28 ans. J'ai un problème depuis à l'âge de 18 ans. Les boutons apparaissent et quand j'ai utilisé des produits un petit peu petits comme le savon, ça passe, mais les acnés restent.
Vous utilisez quoi? Vous utilisez quoi comme produit précisément?
Je vois que
Savon antiseptique.
Un savon antiseptique, vous mettez de la pommade aussi, vous utilisez quoi?
Oui.
Vous utilisez quoi?
De la pommade comme Bio Plus.
Mmh. Ce sont des crèmes que vous achetez sur le marché ou que vous achetez en pharmacie? Vous savez ce qu'il y a dedans?
En pharmacie,
d'accord.
Oui.
Et donc, ce qui vous embête, c'est ces taches qui restent une fois que vous avez eu des boutons. C'est ça. Ce dont parlait d'ailleurs tout à l'heure le docteur Dominique Hégas, hein, sur ce problème de cicatrisation.
C'est vrai que si on a une... Alors, 28 ans, c'est quand même un âge un petit peu avancé pour continuer à avoir de l'acné. Peut-être que vous avez un petit déséquilibre hormonal. Ça serait intéressant que vous alliez consulter, savoir si vous êtes réglé régulièrement, vous prenez une contraception ou pas.
Non, je
ne prends pas de conscience. Ouais. Donc, parce que 28 ans, c'est quand même un âge un peu avancé pour faire une acné microkystique. Donc, ça serait bien que vous alliez consulter, savoir si vous avez un équilibre hormonal satisfaisant. Alors après, si vous avez des poussées d'acné inflammatoire assez fréquentes sur le visage, c'est normal que vous ayez des petites pigmentations post-inflammatoires. Donc là, il faut pas prendre des savons trop antiseptiques. Je vois que vous avez marqué des savons antiseptiques. Comme je le disais tout à l'heure, c'est mieux que vous essayiez de prendre des syndètes. Vous allez à la pharmacie, vous demandez un savon très doux ou un syndète. Et ça vous agressera moins la peau. Et donc, il y aura peut-être moins de pigmentation post-inflammatoire.
Ça veut dire aussi faire attention aussi à l'exposition solaire?
Ah bah toujours, hein, toujours, puisque s'il y a une inflammation qui engendre une pigmentation, et si on reste beaucoup trop au soleil, la pigmentation va perdurer assez longtemps. Hein. Alors les produits bio purs, je ne connais pas. Bon, le nom est bon, hein, parce que ça bio et pur, donc ça fait...
ça promet. Ouais, ça, on peut donc, appeler ça aussi belle
peau. A priori,
peau, hein.
On peut se dire c'est pas mal, mais maintenant je ne sais pas ce qu'il y a dans le bio pur.
Quand on ne connaît pas la composition, ce n'est pas toujours évident. Puis, donc, des fois, c'est marqué naturel, mais ce n'est pas sûr. Hein.
Je voudrais dire que son prénom est très joli, parce qu'en France, on dit on a une jolie frimousse. Ça veut dire qu'on a une tête très sympathique, accueillante et élégante.
C'est un très joli prénom, effectivement.
C'est un très joli prénom.
On vous souhaite une très bonne journée, frimousse, hein, au Bénin. On va partir pour la Guinée tout de suite. On rejoint Alexis. Bonjour Alexis.
Bonjour madame.
On est à votre écoute, allez-y.
Madame, moi j'ai un problème. Je transpire beaucoup au niveau des aisselles.
Mm-hmm.
Et après la transpiration, il y a une odeur qui se dégage. Et cette odeur-là, elle est tellement forte que... elle me dérange moi-même et surtout mon entourage aussi. Et là, j'ai essayé d'utiliser des sticks, des parfums pour pouvoir atténuer cette odeur-là. Mais jusqu'ici, j'ai l'impression même que l'utilisation des produits-là m'a créé déjà une allergie parce que ça donne maintenant une odeur comme sous forme de piment, quoi.
Une odeur quasiment irritante. Docteur Dominique Hégas, c'est fréquent les questions en consultation qui concernent justement ces problèmes de transpiration.
D'odeur.
Ouais.
Bah, vous savez que chacun a son odeur particulière, si je peux dire. C'est normal d'avoir une odeur. Alors, on dit toujours les blancs, ils ont une odeur fade, les noirs, une odeur plus importante, etc. Les jaunes entre les blancs et les peaux pigmentées. Chacun a son odeur. Après, c'est vrai que le meilleur moyen... on ne cache pas une odeur par une autre odeur. Mmh. C'est-à-dire que si on a l'impression d'avoir une odeur un petit peu forte et qu'on met des parfums ou des anti-odeurs qui ne sont pas très adaptés, ça va plutôt aggraver le problème que l'améliorer.
Ouais, mais là, dans le cas d'Alexis, il est vraiment indisposé par ça. Il cherche une solution.
Alors là, j'en reviens toujours au même. On dit que, en fait, le meilleur moyen pour se débarrasser... Enfin, on ne se débarrasse pas des odeurs, puisqu'on a une odeur propre. C'est l'eau et le savon. Hein, c'est-à-dire que, en particulier sous les aisselles...
C'est l'hygiène.
Il faut, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de glandes sébacées et sudoripares au niveau des aisselles. Donc, ça sent quelque chose, hein, c'est normal. Et donc, il faut vraiment bien se laver matin et soir avec de l'eau et du savon, éventuellement mettre un stick déodorant, mais on avait dit, parce que c'était à base de sel d'alumine, que parfois ça pouvait un petit peu irriter plus, donc ça aggrave le problème. Donc, ce qu'il faut, c'est des déodorants, il y en a tant et plus. Ce qu'il faut, c'est trouver un déodorant adapté Alors le stick Nivea, il est peut-être pas adapté à Alexis, mais il y en a d'autres, hein, chez Vichy, enfin il y a tout un
c'est
tas.
C'est pas forcément non plus évident d'en trouver dans toutes les villes de Guinée.
Non,
ça,
mais
c'est
moi
un autre
je
problème.
Pense que pour combattre les odeurs, le traitement numéro un, c'est l'eau et le savon.
L'eau et le savon.
Au moins matin et soir, et dans la journée, comme je le disais tout à l'heure, si vraiment il fait très chaud ou s'il est dans un endroit où il sue énormément, il faut se rincer une fois de plus à l'eau. Alors ce qu'on conseille aussi, c'est de, s'il a des poils très, très importants au niveau des aisselles, c'est de les couper un petit peu. Il ne faut pas raser, mais il faut diminuer la longueur des poils. Parce que là, dans les poils, ça entretient une flore bactérienne importante qui va aggraver les odeurs. Donc il faut couper avec une tondeuse ou des ciseaux sans s'abîmer la peau. Il faut que les poils fassent 4 à 5 mm de long, mais pas plus que ça, quoi. Parce que sinon, il y a une macération, une multiplication des bactéries, des germes, etc., qui aggravent l'odeur. Donc, bien se laver matin et soir, éventuellement rincer une fois de plus dans la journée, et puis veiller à ce que les poils ne soient pas trop longs, mais surtout pas les raser. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins une longueur de poil de 4 ou 5 mm.
Voilà pour ces conseils d'hygiène. Alexis, très bonne journée en Guinée. On part pour la Côte d'Ivoire tout de suite, Abidjan, avec Juan en ligne avec nous. Bonjour Juan.
Bonjour madame.
On est à votre bonjour. Écoute, le docteur Egas vous écoute, allez-y.
Ok, bonjour docteur.
Bonjour Juan.
Ouais, ben moi j'ai un souci au niveau de la peau. C'est que j'ai des taches sur la peau depuis longtemps quand j'étais ado. Et quand ça apparaît au départ, ça donne l'aspect un peu clair par rapport au fond du teint normal en fait. Voilà. Et depuis le temps, j'ai utilisé des produits comme des pommades et puis les lotions aussi pour éliminer ça.
Quand on a préparé l'émission, vous avez dit que c'était des champignons. Qui vous a posé ce diagnostic? Qui vous a parlé de champignons?
Champignons parce que, j'ai dit champignons parce que ça ressemble un peu au champignon, le truc là.
La forme, ça crée voilà, comme des champignons, forme. Mais c'est quoi, au voilà. niveau de taches ou au niveau du volume?
Oh, ça développe un peu. C'est que nous on appelle ça des dartes ici, c'est comme ça qu'on appelle.
Ah, des dartes. Mais vous avez vu un médecin, quelqu'un qui vous a mis ce mot champignon? Parce que quand on a des champignons, on prend un médicament bien précis. Puis quand on a des dartres, on peut avoir un autre médicament.
Absolument.
En fait, c'est dans les recherches, j'ai tenté faire les recherches. J'ai cru que c'était... Il y a dû confondre, en fait.
Vous avez fait des recherches sur Internet?
Ouais.
Oui, vous avez fait des recherches sur Internet. Docteur Egas.
Alors, vous savez que les champignons sur la peau, c'est assez fréquent, hein, en particulier au niveau des plis inguinaux, sous les bras, ou même sur le thorax. Le pityriasis versicolore est extrêmement fréquent. Les dermatophyties, qui sont plus au niveau des plis, à triconfitorubrum, sont des champignons très difficiles qui sont des hôtes un peu naturels de la peau et qui sont très bien adaptés à la peau humaine. Alors si malheureusement on les a attrapés soit avec un partenaire, soit avec un chien, un microsporum canis ou un chat, et qu'ils sont sur la peau, ça peut rester assez longtemps, hein. Donc là, il faut vraiment des traitements adaptés, antifongiques, et qui vont combattre les champignons, si ce sont des champignons, mais ce sont pas obligatoirement des champignons, hein, parce que cet aspect, alors c'est pas épais sur la peau, hein, ça dessine des espèces de figures un peu géographiques, arrondies, et qui ne prennent pas d'épaisseur, mais qui s'étalent de façon centrifuge. Donc ça évoque effectivement des champignons. Mais il faut d'abord être sûr que c'est ça et que c'est pas une petite lésion de type virale ou bactérienne, les traitements étant pas du tout les mêmes. Alors si on met, là, il dit, lorsqu'il utilise des produits pour éclaircir la peau...
Non, justement, que... Ah, vous... C'est quand vous utilisez les produits pour retirer les champignons, mais ce sont pas des produits pour éclaircir la peau, hein, c'est bien différent.
Parce que
oui, des produits pour les champignons, mais en fait, vous utilisez des produits pour des champignons sans savoir si ce sont vraiment des champignons.
Ah oui. Donc parce que ce sont peut-être pas du tout des champignons, hein, ça peut être parce que si ça le démange un petit peu, ça peut être plutôt une éruption urticarienne que vraiment des
Juan,
champignons.
Juan, vous êtes à Abidjan, est-ce que vous pouvez aller voir un dermatologue, parce qu'il y a des dermatologues à Abidjan, est-ce que vous en avez la possibilité ou pas?
Oui, je vais voir.
Je pense que c'est le plus raisonnable. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Egas, d'aller voir un dermato?
Moi, je pense que là, effectivement, c'est difficile, sans voir les lésions, de dire s'ils sont vraiment des eczématides, des dartes, comme on dit, dues à une petite irritation de la peau, ou effectivement vraiment des champignons. Et quel type de champignon il s'agit, parce qu'il n'y a pas un seul type de champignon qui affecte la peau.
Et si on trouve justement la bonne crème adaptée aux champignons, on peut vraiment s'en débarrasser.
Absolument.
Donc c'est important d'aller consulter, parce que visiblement ça vous embête au quotidien, ça pourra vous soulager, Juan. Hein.
Dans ces pays où il fait chaud et humide, c'est vrai que les champignons ont tendance à se multiplier, hein, comme tous les champignons. Mais il faut être sûr du diagnostic et avoir le traitement vraiment adapté.
D'où la nécessité de consulter. On va prendre un dernier auditeur. Hein. C'est Léon, qui est en République démocratique du Congo, à Uvira. Bonjour Léon.
Oui, bonjour à notre invité, bonjour également à vous qui m'appelez.
À Uvira. Bonjour Léon. Bonjour, on vous écoute, allez-y, expliquez-nous votre problème.
Oui, exactement, je suis en République démocratique du Congo à l'Est, dans la ville d'Uvira. En fait, j'étais un ancien utilisateur des crèmes éclaircissantes pour ma beauté.
Oui.
Maintenant, oui, il était arrivé à un certain moment, une année et deux mois après, que je me suis vu mon teint changer complètement et devenir très, très éclaircissant. Et là, ça m'a fait un peu de la peine dans la famille, dans la société, mais beaucoup plus surtout dans ma famille chrétienne, donc à l'église, quoi. Et alors, du coup, je me voyais un peu avec un autre teint, je me voyais un peu critiqué négativement. Et je me disais, c'est quoi? Socialement, je me suis un peu isolé, stigmatisé aussi.
Et vous voudriez quoi, Léon? Vous voudriez revenir en arrière, retrouver votre teint initial? Parce qu'aujourd'hui, ce teint éclairci, ça vous complexe, ça vous met mal à l'aise?
Effectivement, je voudrais un peu revenir à mon teint
initial.
Initial, oui.
Docteur Dominique Egas, des personnes qui ont éclairci leur peau avec ces crèmes éclaircissantes, hein, on a consacré de nombreuses émissions et on va encore le faire, de dire que c'est vraiment quelque chose, on peut le dire, à oublier, c'est pas un jugement, santé. C'est pas bon pour la santé, puis franchement, en général, le résultat est loin d'être à la hauteur.
Il y avait deux types de crèmes, il y avait à base d'hydroquinone et à base de corticoïdes, alors les deux sont mauvais pour la peau. Donc en France, les hydroquinones ont été interdites. Donc il faut pas utiliser l'hydroquinone. Et puis l'autre produit qui éclaircit bien la peau, ce sont des crèmes à base de cortisone. Donc ça, c'est vrai que ça éclaircit bien la peau, mais comme j'ai dit tout à l'heure, en même temps ça fragilise la peau parce que ça diminue son épaisseur, ça fragilise les fibres collagènes et élastiques, et donc ça éclaircit bien la peau, c'est vrai, mais en même temps ça la fragilise énormément.
Dans les deux cas, c'est très mauvais pour la santé de la peau.
Ouais, c'est très
et
mauvais.
Et pour revenir en arrière,
et pour la santé en général.
Oui, pour la santé en général, puisqu'il peut y avoir des effets secondaires qui sont loin d'être secondaires, qui sont carrément graves.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire à Léon? Est-ce qu'il peut revenir en arrière? Du moins, au moins arrêter.
Alors déjà, il faut qu'il arrête. Et s'il arrête, la peau va se réépaissir un petit peu. Et petit à petit, en faisant attention, en se mettant pas trop au soleil, petit à petit, la peau va repigmenter. Hein. Mais c'est vrai que s'il l'a utilisé beaucoup, longtemps, il retrouvera pas exactement la même type de peau qu'il avait auparavant. D'autant plus, comme on l'a dit en début d'émission, que la peau... On ne revient jamais à la peau antérieure. En vieillissant, la peau change de nature et de type, et on ne retrouve jamais, à 35 ans, on ne retrouve pas la peau qu'on avait à 20 ans.
En tout cas, Léon, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est autour de vous diffuser le message, hein, dire bien... n'utilisez pas ces crèmes, c'est mauvais, non seulement c'est pas forcément très joli, mais surtout c'est très très mauvais pour la santé. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour ce témoignage, hein, de République démocratique.
Ça, c'est Michael Johnson qui avait le chanteur là.
Michael Jackson,
qui s'était énormément éclairci la peau, de façon assez intelligente d'ailleurs, parce qu'il avait pas trop abîmé, et c'est vrai qu'il s'était énormément éclairci.
Même si lui a toujours dit que c'était une maladie de peau, mais ça...
Mais ça a été un des facteurs starters de cet éclaircissement de la peau, qu'on vous déconseille vraiment de continuer, hein, pas d'hydroquinone et pas de cortisone sur votre peau pour l'éclaircir.
Et c'est encore quelque chose qu'on va dire tout de suite avec une de vos consoeurs, hein, qui est en ligne du Cameroun. Docteur Christine Mandinguet, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité à votre émission.
Ça fait plaisir. Vous êtes dermato-vénérologue, praticienne hospitalo-universitaire à l'Université des Montagnes à Bangangté, dans l'ouest du Cameroun. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord pour rebondir sur ce témoignage justement de Léon Aouviras, fameuse dépigmentation, hein, il regrette aujourd'hui Léon, il voudrait revenir à sa peau initiale. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Le docteur Dominique Egas lui a dit bien sûr qu'on pouvait pas non plus tout effacer de ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y a des conseils que vous donnez, vous, à vos patients quand ils arrivent avec des taches ou la peau éclaircie et qu'ils, comme Léon, qui regrette?
Oui, alors ce problème de dépigmentation artificielle est très répandu, hein, dans nos sociétés. Lorsque je reçois une personne comme Léon, eh bien, je lui conseille d'arrêter. Mais seulement, il ne faut pas arrêter brutalement. Je demande d'abord de m'apporter ce qu'il utilisait. Je regarde si je réussis à détecter les produits dépigmentants de la formule. Eh bien, j'utilise, si c'est des corticoïdes les plus faibles. On passe des forts aux faibles et on commence à espacer. Et pendant qu'on espace, on utilise des produits hydratants. Voilà, c'est ce que je... Et puis, je lui conseille de ne pas d'arrêter là, parce que en lui expliquant toutes les conséquences qui sont liées à cette pratique.
D'y aller par palier. Donc, docteur Christine Mandinguet, est-ce que vous pouvez vous rapprocher directement de l'appareil? Parce que on vous sent un peu loin. Je me demande si vous n'êtes pas en train de parler sur votre haut-parleur.
Non, pas du tout.
Non, parce que vous êtes un peu loin. Mais bon. C'est juste que vous êtes au Cameroun, donc c'est tout à fait normal qu'on vous entende d'aussi loin. Et c'est fréquent, justement, ces consultations pour cette question de la dépigmentation, docteur?
Oui, c'est très fréquent. La dépigmentation est très répandue. Elle est très, très répandue. Le chiffre exact, je ne peux pas vous le donner. Mm-hmm. Mais c'est une pratique très répandue. Et parce que il faut dire que les gens, comme j'ai entendu les interventions de certains patients qui avaient le problème de teint irrégulier et qui voulaient avoir un teint uniforme et qui utilisaient bon, des produits inadaptés puisqu'ils les prennent dans des surfaces appelées parfumerie mais qui n'en sont pas. Et donc, ça donne à la fin un éclaircissement qu'on ne désire pas. Et avec ça, des hyperpigmentations, de l'acné, plein de choses, des vergetures. Mais il faut arrêter cela. C'est très difficile de faire arrêter ces produits parce que les gens veulent être clairs. Et ils se disent, en étant clairs, ils sont plus beaux comme ça. C'est plus agréable à regarder, mais sans compter avec les complications. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a qui acceptent les conseils qu'on leur donne, mais d'autres sont perdus de vue, on ne sait pas où ils partent et tout ça, voilà. Donc c'est assez compliqué.
Docteur Mandinguet, est-ce que vous constatez quand même que les patients attendent peut-être un petit peu trop longtemps, viennent consulter de façon tardive, et du coup, eh bien, les affections de la peau qu'ils vous présentent sont assez graves, assez sévères?
Oui, tout à fait. Ils viennent tard. Puisqu'ils viennent consulter lorsqu'ils constatent les conséquences, les complications.
Mais il faut dire aussi qu'il y a assez peu de dermatologues au Cameroun. Hein.
On est quand même, oui, il y en a peu, parce qu'on est à peu près une trentaine pour 24 millions d'habitants.
Oui, ça fait peu, oui, ça fait très peu, on peut le dire, très peu.
Voilà,
très peu, hein.
Et tous concentrés à Douala et à Yaoundé. Voilà. Moi, je suis seule dans ma région, ici, à l'ouest du Cameroun, pour vous dire.
Donc, on comprend. Et les affections les plus fréquentes, justement, dans votre consultation, c'est quoi précisément, docteur?
Il y a les infections de peau, comme dans toutes les zones tropicales, les infections sont les plus répandues. Ça va des infections bactériennes, mycosiques, virales, et puis, bon, les trois, là, qui sont les plus répandues. Autant chez les personnes séropositives que les personnes immunocompétentes. Mais les infections sont les plus répandues. Évidemment, on observe également les infections courantes, l'acné, les infections auto-immunes, il y en a. La prise en charge est compliquée, bien sûr. Et puis, bon, voilà, on a tout ce qu'on trouve ailleurs, on les trouve chez nous. Mais les infections sont les plus répandues.
Et docteur, si vous aviez un conseil, un message à faire passer, justement, au grand public qui nous écoute en matière de prévention, vous diriez quoi ?
En matière de prévention, des infections ou de la dépigmentation ?
En général, pour la santé de la peau, dans les personnes que vous consultez, vous, dans votre région ?
Ben, dans ma région, ce que je leur conseille, c'est d'être simple dans la prise en charge de leur peau, d'être simple, de se contenter de laver la peau avec des savons, s'ils ne sont pas sur gras, peut-être ni hydratants, eh bien des savons qu'on trouve, mais qui ne sont pas décapants, qui ne sont pas dépigmentants, et d'utiliser des laits hydratants. On n'en trouve pas beaucoup non plus, mais on utilise des substances qui sont parfois traditionnelles, comme l'huile de palmiste de nos grands-mères, qui continue d'être utilisée dans des zones où on ne trouve pas des produits cosmétiques adaptés. Il suffit juste d'avoir, comme c'est des produits qui sont très, très qui dressent énormément la peau, d'avoir les mains hydratées. Avec de l'eau, ça devient une substance hydratante.
De mélanger cette huile avec de l'eau pour justement se le passer sur le visage et avoir une bonne hydratation. Merci beaucoup.
Est-ce que je peux vous poser une question chez les gens, deux secondes, mais chez les gens qui ont des pigmentations post-inflammatoires sur les peaux pigmentées, est-ce que vous arrivez à leur faire mettre des crèmes écran total, ceux dans vos pays où il y a beaucoup de soleil?
Pour éviter les taches.
Pour éviter les taches. Parce qu'en France,
je leur explique parce qu'ils ne savent pas que la peau noire n'est pas non plus amie spécialement des ultraviolets. Alors, je leur demande de se mettre hors des rayons, de ne pas attendre sous le soleil, d'apprendre à se mettre à l'ombre. Maintenant, fait partie ces tâches, nous utilisons, on retrouve parfois des spécialités comme de topique crème et tout ça, Mela. Des mélacrèmes et tout, mais il n'y en a pas beaucoup. On continue d'utiliser la formule de Quitman. Parce que même si l'hydroquinone est interdite, on n'a pas de choix. On utilise de façon à faible dose. On trouve quelques pharmaciens qui arrivent à nous d'élaborer la formule.
Véritablement un problème d'accès aux produits. On vous remercie infiniment pour toutes ces explications, docteur Christine Mandinguet. Et docteur Egas, oui, le temps passe très très vite. On arrive à la conclusion de l'émission. En tout cas, on a répondu à de nombreuses questions d'auditeurs sur des sujets très variés. Et ça ouvre la porte, hein. Il faut reparler de la dépigmentation très bientôt dans Priorité Santé. Ouais. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de messages à faire passer. Merci à vous, docteur Dominique Egas, d'avoir répondu.
Je vous en prie, merci de m'avoir invité.
À notre invitation. L'alimentation et la santé, tout de suite dans Priorité Santé, c'est avec vous Stéphane Besançon. Stéphane, bonjour.
Bonjour Caroline.
Stéphane, vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Aujourd'hui, nous allons parler du sel. Attention, danger quand on en mange trop. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le sel et comment il est produit tout simplement ?
Alors le sel, c'est un aliment qui est utilisé depuis la préhistoire, à la fois pour l'assaisonnement des plats, mais aussi pour la conservation des aliments. Alors c'est un produit qui est composé majoritairement de chlorure de sodium. Et pour qu'il soit d'une qualité suffisante pour être un sel alimentaire ou un sel de table, qui sont ces deux appellations quand on veut le manger, il faut qu'il soit composé de 97% de chlorure de sodium, tout en contenant moins de 0,1 mg par kilo de mercure, 2 mg par kilo de cuivre et de plomb, et moins de 0,5 mg par kilo d'arsenic. Et là, on a un sel qui est comestible. Alors, du coup, pour renforcer la santé, on sait aujourd'hui que aussi on a beaucoup de sels qui sont enrichis en iode et en fluor. Et il y a deux grands modes de production du sel qui est consommé. Le premier, c'est la production du sel de mer, en fait, par évaporation de l'eau de mer. Et le second, ça va être à partir d'un dépôt de minerai qui contient une importante concentration de sel comestible. Alors, ce sel extrait de mines de sel, on peut le voir souvent, c'était dans des zones où il y avait des lacs ou des mers qui se sont asséchés, donc c'est ce qui a fait que ça enrichit le minerai, et on l'a en appellation de sel GEM.
Alors, quel est l'impact pour la santé d'une surconsommation de sel ?
Alors, tout d'abord, il faut rappeler que le sel joue un rôle important pour le fonctionnement de notre organisme. Avant d'aller sur le négatif, il y a quand même un rôle positif. C'est-à-dire que le chlorure de sodium qu'il compose va réguler avec le potassium tout notre équilibre hydrique, c'est-à-dire nos échanges d'eau et de micronutriments, mais aussi joue un rôle indispensable pour la transmission de l'influx nerveux. Et il ne faut pas oublier que dans les pays où le sel est iodé, ce qui est le cas en France et dans beaucoup de pays, il joue un rôle important dans la fourniture d'iode, qui va éviter la survenue des goitres et qui va aussi diminuer la survenue du crétinisme. Alors maintenant, le côté négatif, c'est dans la surconsommation de sel, ça a des conséquences très néfastes sur notre santé, ça va favoriser l'apparition de l'hypertension artérielle, qui est aujourd'hui une maladie très très fréquente, plus d'un milliard de personnes sont touchées, qui peut avoir des conséquences très graves si elle n'est pas contrôlée, puisqu'elle favorise les maladies cardiaques comme les infarctus du myocarde, les maladies du cerveau comme les accidents vasculaires cérébraux, ou encore les maladies du rein comme l'insuffisance rénale. Et c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé recommande aujourd'hui une consommation maximum de 5 grammes de sel par jour avec une répartition optimale d'un gramme de sel par portion d'aliment.
Alors, il y a le sel blanc qu'on ajoute aux aliments et puis aussi avec l'émergence des aliments ultra transformés, un sel plus compliqué à retrouver. Justement, comment on peut les repérer, ces aliments particulièrement riches en sel?
Alors, comme vous l'avez dit, il y a celui qui est visible, c'est celui qu'on rajoute, qu'on a sur la table et qu'on rajoute dans les plats lors de la préparation ou au moment de les manger. Celui-là, il est relativement facile à identifier d'abord et à contrôler ensuite. Alors, aujourd'hui, le gros problème, c'est ce qu'on va appeler les sels dits cachés, qu'on retrouve naturellement dans certains aliments, mais surtout qu'on va retrouver dans les préparations industrielles et dans ce qu'on appelle aujourd'hui les aliments ultra transformés, c'est-à-dire encore plus industrialisés. Et alors là, ils vont être ajoutés à beaucoup d'étapes de fabrication. Il y en a des aliments qui vont être très très riches en sel. Et aujourd'hui, il faut savoir que ça représente la principale source de sel de notre alimentation. Il est donc important de savoir reconnaître les aliments très riches en sel pour pouvoir limiter cette consommation. Alors j'ai pris quelques exemples. Il s'agit par exemple des bouillons cubes alimentaires. Les fameux bouillons qui, eux, sont très très riches en sel, attention danger, les concentrés de tomates, très utilisés notamment en Afrique, très riches en sel aussi, les olives, les arachides salés, les charcuteries, les viandes, les poissons séchés, et les poissons et les viandes en conserve, ce qu'on oublie souvent, ou encore, ce qui est plus étonnant, dans les aliments ultra transformés dits sucrés ou gras, on en a beaucoup qui sont très salés, c'est l'exemple des croissants et de beaucoup de viennoiseries.
Alors, quels sont vos conseils pratiques pour arriver à maintenir une consommation de sel dans les normes, d'ailleurs, comme ce que recommande l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé?
Alors, la première chose pour le sel dit visible, c'est-à-dire il faut toujours goûter son plat avant de le saler ou le ressaler.
Il y a des mauvais réflexes.
Oui, tout à fait. Il y a des gens qui salent par principe, donc il faut faire attention à ça. Il faut utiliser en priorité les condiments locaux. Il y en a des tonnes de sortes suivant où on est. Ça veut être le soumbala, le datou, l'ail frais en Afrique de l'Ouest. Ça va être l'oignon frais, le piment dans d'autres zones, ou encore le poivre. Chez nous, on l'utilise beaucoup pour assaisonner, pour donner du goût, sans passer justement par les cubes alimentaires ou d'autres produits transformés. Si on vient sur les cubes, c'est un seul bouillon cube suffit amplement pour le plat de toute une famille. Pas de salaison complémentaire, ou alors rajouter une petite cuillère à café de sel dans le plat, pas plus. Éviter de manger les aliments salés entre les repas. Il y en a beaucoup, les chips, la viande séchée. Si on a une petite faim, il faut plutôt aller vers un fruit ou des produits de ce type-là. Et enfin, lorsqu'on achète des aliments transformés ou ultra transformés dans le commerce, il faut bien lire la composition en sel qui est indiquée sur l'emballage, sous la dénomination sel ou sodium. Alors, il faut savoir que si l'étiquette indique sodium, 1 gramme de sodium correspond à 2,5 grammes de sel. Et enfin, le dernier point, il est aussi possible, ça arrive maintenant sur le marché de plus en plus, de remplacer le sel de table classique par un sel de table allégé. C'est un sel dont la quantité de chlorure de sodium est divisée par 2. Et au lieu du chlorure de sodium, on va remplacer cette moitié par 3 autres ingrédients qui sont du potassium, du magnésium et du calcium. Donc on aura un sel, j'allais dire, entre guillemets, moins salé, ce qui va permettre d'avoir des bénéfices. Mais attention, ça fonctionne, à condition qu'on mette la même dose, parce que si pour augmenter la salaison on met le double, tout l'intérêt disparaît. Donc consommation de sel, oui, modérée, attention à l'excès, très dangereux pour la santé.
Merci beaucoup Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. À bientôt dans Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise Priorité Santé. Aujourd'hui, Baptiste Madinier, Beverly Santou, Pauline Leduc. Demain, on va parler des problèmes de couple, les thérapies de couple. Est-ce que ça marche? Comment communiquer? Appelez-nous 33 1 84 22 75 75.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier.